What's going on?
Ready, set, and begin.
La sexploratrice. Avec Mel Trudel et Camille.
Radio X.
Hola! Camille!
Salut Mel!
Comment ça va?
Ça va super bien, toi?
Oui. Très bien! T'es resplendissante ce soir, je trouve.
Ben merci, je partage le compliment.
C'est gentil.
On porte le noir. C'est pas mal ben ton oui. uniforme, en fait, le vendredi. Hein?
Moi, je suis presque toujours en noir.
Toujours corporate.
Ouais. Ouais. J'étais en mou noir.
Mou chic, voyons.
Mou chic. Donc, Camille, une autre cinquième épisode déjà.
Cinquième épisode, deuxième week-end de la Saint-Valentin. C'est important de le mentionner aussi. C'est l'avantage d'avoir une Saint-Valentin en plein milieu de semaine. Il y en a qui ont fêté avant, pendant et après. Donc, je pose la question au hasard comme ça aujourd'hui. Est-ce qu'on on fait l'amour ou est-ce qu'on fait du sexe avant ou après le pelletage de neige? Ou pendant la tempête? Je pose la question. C'est une question optionnelle ce soir.
Je n'attendais pas à ça. C'est
mais non,
très bon.
Mais c'était la journée pour ça.
Mais oui, absolument.
Passer à côté de la tempête, c'est comme si on sortait d'une grotte là, aujourd'hui. Il y a eu ça.
Oui.
Donc, je pose la question avant, pendant ou après la tempête.
C'est une bonne question.
Voilà. je commence comme ça avec une question indiscrète.
Merci. C'est super. Aujourd'hui, Camille, on aborde un sujet qui me fascine, en fait, puisque c'est quelque chose qui m'a quand même touchée durant longtemps. Et on a deux experts avec nous qui vont venir nous en parler. Deux experts que j'adore aussi. Mais c'est sûr que je n'inviterai pas du monde que j'aime pas. Hein? On s'entend là-dessus. Je tiens à préciser qu'on est en live sur Facebook.
Oui.
Choix Radio X.
Exact. Tu nous as mis en direct sur Instagram, TikTok?
On est sur TikTok, là.
On est sur
mon
TikTok.
Premier, deuxième live TikTok à vie.
Parfait.
Et c'est Dr. Paul Simard qui m'a parti ça. Je suis un peu... Je suis vraiment techno-tweet. Et écoute, je découvre TikTok comme beaucoup de gens.
Donc, ton nom d'utilisatrice pour qu'on puisse aller voir sur...
Oui, Mélanie Trudel, Mademoiselle Trudel.
Parfait.
Oui, je pense que c'est pas mal ça, le nom sur TikTok.
Et on a toujours le 418-670-9098 qui est le texto de Radio X. Les téléphones, on va peut-être en prendre, mais c'est toujours plus facile pour nous de jeter un coup d'œil sur l'écran et sur les textos pour interagir.
Juste qu'on a manqué de temps à chaque fois, donc...
Non, écoute, c'est une adaptation. Là, on a tellement un format très, très, très concentré que, écoutez, on vous lit, on prend en note. Si on a des questions, il va à la volée, à la limite. Mais on est parti pour un autre 60 minutes avec de quoi comme t'as dit, qui est fascinant. On est plus dans le relationnel que dans le sexuel, quoique les deux se côtoient aussi. Mais
absolument.
Là, on est vraiment dans le cerveau, dans la complexité humaine et dans les émotions.
Et voilà. Donc, ce soir, on parle de dépendance affective et comment arriver à s'en défaire. Parce que oui, c'est possible. Même si vous êtes dans une période de votre vie où vous croyez que c'est impossible de se défaire de ça, je vous garantis, et j'en suis la preuve vivante, que c'est possible de se sortir d'une forte dépendance affective. Et on commence tout ça en compagnie de Dr. Paul Simard, psychologue.
Bonsoir.
Bonsoir. Dr. Simard, qu'on voit partout.
Je suis partout, en effet.
Ben oui, absolument. Partout, très actif sur TikTok, sur les réseaux sociaux, mais également ici, sur les ondes de choix.
Oui, je suis choyé.
C'est
le mot du vendredi soir.
Et également à la télévision.
Oui, mais comment fais-tu pour savoir tout ça? J'ai mon propre show de télé, c'est un site qui s'appelle Regard Psy.
Très intéressant.
Dans lequel je démystifie toutes sortes de sujets reliés à la psychologie, des choses que moi j'aurais aimé savoir là, il y a quelques années. Donc là, je l'offre aux gens et c'est gratuit. Donc chaque épisode tourne en boucle pendant deux semaines à la télé. Là. Puis après la première semaine, c'est disponible sur le site web de ma TV. Donc Regard Psy.
Excellent. Puis, tu as participé également... Je te tutoie parce qu'on se connaît, hein?
Un peu.
C'est correct?
Bon. Oui, oui.
Donc, tu as participé également au sommet de Martin Latulippe.
Oui.
Ça, là, j'ai tellement d'amis qui m'en ont parlé. Ton intervention était absolument incroyable.
Eh bien, je suis vraiment honoré d'avoir... Merci.
Vraiment, c'était super...
Mais Martin a été un intervieweur extrêmement généreux. Là. Puis je trouve que quand on se réseaute bien avec des personnes généreuses, ça permet de multiplier encore plus la générosité.
Oui.
Donc...
C'est possible de réécouter. Moi, j'ai réussi aujourd'hui à avoir les accès pour pouvoir écouter en rediffusion. Mm-hmm. J'étais super déçue de manquer ça. J'ai eu un gros événement le week-end où c'était diffusé. Puis finalement...
Ils ont collecté 51 000, je pense, pour les enfants.
Félicitations, c'est vraiment, vraiment très bon. Dr. Simard, on va aller dans le vif du sujet et j'aimerais qu'on parle de comment se défaire de la dépendance affective et comment savoir qu'on est dépendant, parce qu'il y a plusieurs formes de dépendance. Est-ce que je me trompe ou un individu qui a besoin de facteurs extérieurs pour... en fait, quelqu'un là, qui... bon, l'amour de soi, la confiance en soi, l'amour de soi et tout ça, si ça doit dépendre de facteurs extérieurs pour le ressentir, est-ce que c'est considéré comme une forme de dépendance affective? Ou...
Bien, on pourrait dire que ça commence à être un problème si le centre d'un cercle se situe à l'extérieur de lui-même. Donc, imaginez un cercle, mettez le centre de ce cercle-là à l'extérieur de lui-même. Il faut comme le déformer pour le... Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des problèmes. Mais par contre, il y a différentes notions à comprendre sur la différence entre un trouble de dépendance et des traits, une forme de souffrance de dépendance.
Où est-ce qu'on trace la ligne dans ce cas-là? Parce qu'il y a ce souci des autres, il y a être en relation, il y a vouloir, vouloir donner, recevoir. C'est où que ça devient problématique?
On a un beau terme, nous, les psychologues, pour ça, on appelle ça la souffrance cliniquement significative.
Qui veut dire?
Bien, c'est qu'il faut évaluer le fonctionnement global de la personne et est-ce que ce qu'elle considère comme étant de la dépendance, ça crée des dysfonctionnalités ou beaucoup de souffrance?
Dans son quotidien.
Ouais, c'est pas seulement des cases à cocher, là, présent, absent. Ou tout. C'est la souffrance qui va être associée avec ces perturbations-là.
OK. On a tendance à voir des gens bon, qui vont être dépendants affectifs, multiplier des relations et tout ça. Mais il y a aussi des gens qui sont dépendants affectifs. En fait, c'est des gens très gentils, très serviables, très... comment dire? Des gens qui sont...
Attentionnés, soucieux.
Extrêmement attentionnés, qui le font pour recevoir de la reconnaissance.
Oui.
Ça aussi, c'est une certaine forme de dépendance.
Bien, on pourrait dire que ça glisse vers la dépendance lorsque le désir de plaire compense d'autres besoins. Comme par exemple, si j'ai besoin de travailler sur mon projet, mais que je veux surtout pas déplaire, là, puis je vais acheter la paix. Donc, je vais mettre en place des comportements qui vont aller chercher l'attention, qui vont assurer que je me ferai pas rejeter, mais mon projet, lui, pendant ce temps-là, il avance pas. Là.
Mm.
Donc, ça crée toutes sortes de problèmes et de perturbations.
Est-ce que la peur du rejet est un point commun, le point central, en fait, d'une dépendance affective ou d'un trouble?
Bien, le rejet, oui, mais je dirais principalement la peur de l'abandon. Parce que le rejet, c'est comme se faire, on pourrait dire, repousser. Ça peut être assez violent, ça, se faire rejeter. Alors que se faire abandonner, c'est comme si on se fait laisser par négligence sur le comptoir. Et là, les gens nous ignorent.
Puis parce qu'on n'a jamais appris à être bien avec soi-même, bien, ça nous fait peur d'être abandonné. Donc, on est prêt à tout faire pour rester dans la relation, qui peut être même toxique.
Oui, bien, on voit ça chez les gens qui n'arrivent pas à tolérer le sentiment de vide intérieur. Mais tout à l'heure, je vais sûrement vous donner des trucs sur comment on fait pour s'occuper de ça, là, le sentiment de vide intérieur.
Oui, parce qu'on en parlait hors d'onde. Il faut savoir faire la différence aussi entre être dépendant affectif et avoir peur de la solitude.
Bien oui.
Quelle est la différence entre les deux? Bien, comment on pourrait l'expliquer?
On pourrait dire que... Moi, quand on touche le sujet de la solitude, j'aime bien le différencier de l'isolement.
OK.
C'est que l'isolement, c'est un état de fait. Je suis seul, je suis placé en isolement. Il n'y a personne autour.
Ouais.
Alors que la solitude, selon moi, c'est un sentiment qui peut être vécu dans une foule. Ça a été étudié, ça, notamment dans les casinos en Californie. Puis ça a donné cours à un concept qui s'appelle la solitude collective. Toutes les gens sont un à côté de l'autre devant les machines à sous. Là, sont des centaines de personnes à côté, mais sont tous seuls avec leur machine.
OK.
Donc, on voit que c'est un sentiment, la solitude. Il y a des gens qui vont se sentir seuls en plein milieu d'une réunion de famille, même s'ils sont en couple. Puis, il y a d'autres personnes qui vont se sentir seuls lorsqu'il n'y a personne autour.
C'est un état d'être.
Ouais, ouais. Fait qu'il faudrait différencier ça, là. Est-ce que je souffre d'isolement, de privation de contact, ou je souffre d'un sentiment? C'est comme une sorte d'aliénation sociale ou aliénation intérieure.
C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'on m'étudie là-dedans. Là, ce soir, ça me touche énormément, oui. Puis ce sentiment de solitude-là, vient-il pas avec le sentiment aussi d'avoir un vide à l'intérieur?
Oui, ben oui, mais c'est normal, à quelque part, de se sentir mal lorsqu'il y a personne autour ou lorsqu'on n'est pas compris. Parce que biologiquement, on est programmé pour vivre en tribu.
Oui.
Imaginons là, que ce sont les gens qui avaient les comportements prosociaux, qui vivaient ensemble, qui se sont reproduits. Il y avait plus de chances de survivre. Mm. Donc, génération après génération, on est le résultat d'une sélection basée sur la vie en tribu. Fait qu'à l'intérieur de nous, là, il se déclenche toutes sortes de réflexes de survie, là, de panique puis de peur, dès que peut-être que les autres ne seront pas d'accord avec nous.
Mm-hmm.
Moi, présentement, j'ai peur. J'ai peur parce que je prends la parole en public. Possible que des gens qui n'aiment pas ça, ce que je suis en train de dire. Donc, il faut savoir gérer sa peur pour remplir le vide.
Oui.
Mais c'est juste vide parce que vous n'êtes pas là. Il faut apprendre à se donner de l'attention pour soi-même.
Exact.
L'enfant, il n'est pas capable de faire ça, lui, dans son cerveau.
Oui, il est trop dépendant du parent. Puis de.
Exact, c'est normal, parce que si personne ne s'occupe de lui, il meurt.
Ouais.
Mm-hmm. Mais rendu adulte, si on continue d'essayer de s'aimer les uns les autres comme des enfants, bien là, ça crée toutes sortes de problèmes. Donc, il faudrait apprendre à développer notre responsabilité là-dessus, là, sur nos besoins, devenir comme le bon parent pour soi-même, remplir le vide intérieur.
Devenir la personne qui nous rend heureux, finalement.
Oui.
Ça, c'est ce que j'ai appris à faire au fil du temps, mais clairement, j'avais une énorme peur de l'abandon toute ma vie. J'ai été 22 ans en couple. Je suis certaine qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dans qu'est-ce que j'ai vécu. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai multiplié, j'ai eu 4 longues relations, disons, en 3 et 6 ans. Mais je suis toujours partie de chaque relation. C'est toujours moi qui a quitté mes conjoints, clairement. Peut-être, bien, je levais des flags, mais bon. Par peur d'être seule ou... J'ai toujours été du genre à avoir le côté positif des choses, mais clairement, j'embarquais dans des relations où là, je voyais quand même des red flags, des choses qui pouvaient... des incompatibilités, finalement. Mais j'en faisais fi en me disant, ah, de toute façon, ça peut pas être parfait. Mais au fil des années...
Des fois, ça devient trop.
Bien, au fil des années, là, les red flags que je levais, bien là, la personne me prenait pour acquis, me tenait pour acquis, donc se disait, bien voyons, elle chiale là-dessus, mais ça fait des années qu'elle dit rien, donc... C'est, je peux continuer, ou tu sais. Ouais, donc, j'ai accepté des choses que j'aurais jamais dû accepter jusqu'à m'en écœurer et quitter la relation pour retomber, rencontrer une autre personne et repartir en relation. Mais je fusionnais littéralement là, au point de ne plus voir beaucoup mes amis. J'ai toujours eu des gros cercles sociaux.
C'était des remplacements de partenaires.
Bien... Je voyais toujours quelque chose de très, très positif et on fusionnait littéralement. Là. Clairement, mes conjoints étaient aussi dépendants affectifs, fort probablement. Mais vraiment, là, j'ai été comme ça là, jusqu'à l'âge de 39 ans. Mm-hmm. Ma dernière relation de 5 ans, là, je suis allée loin, en tabarouette, dans les limites. Ouais. Et là, je suis tellement allée loin qu'aujourd'hui, je pense que j'ai switché de dépendante affective à complètement indépendante. On a parlé du style d'attachement évitant.
Ouais, ouais.
Je suis en train de me demander si c'est pas peut-être ça ou...
Ça se peut. C'est comme un contre-coup, dans le fond, de passer de la peur de se faire abandonner à « ben moi, je m'engage plus dans l'intimité, je n'ai que des relations superficielles ». Il y a des gens qui font ça. Mais,
okay.
Mais on appellerait ça en psychologie un comportement contraphobique. C'est comme si en disant, moi, vu que j'ai peur des serpents, je vais aller me rouler dans un tas de serpents pour me montrer que j'ai pas peur.
Mmh.
C'est tellement intense là, qu'on appelle ça une contre-phobie.
Oui. Mais je pense que j'ai pas peur de m'embarquer dans les relations, mais je donne mes limites en partant. Mmh. J'en parle en partant, puis si ça fait pas, ça fait pas, puis tu sais. Fait que là...
Mais la maturité émotionnelle, ça va impliquer une forme d'interdépendance. Ou on pourrait dire de partage d'autonomie. Parce qu'il faut mettre quelque chose en commun. Mais plutôt que d'être l'inverse de la dépendance, parce que dans le fond, l'inverse de quoi? C'est quoi déjà que tu veux pas être? Dépendant. OK, oublie pas là. N'oublie pas, ne sois pas dépendant. Ça reste la dépendance, ton point de référence. C'est pour ça qu'on parle de contre-dépendance.
OK.
Mais si on veut guérir tout ça, on va développer notre esprit vers un peu plus de sécurité et d'autonomie, la prise de responsabilité. Puis là, si on veut tisser des relations, il va falloir partager avec les autres.
Ouais.
Mais partager, c'est bien différent de fusionner.
Comment on le décrit, cette différence-là?
Bien, la fusion, c'est comme si on descendait dans un blender à vie conjugale, mettons, puis on pèse sur vitesse maximum. Un petit jus égal, plus de chicane. Mais deux personnes mortes, ils ont fusionné.
Deux personnes, j'aime ça.
Alors que le partage, c'est que chaque personne a des projets en soi, est complet en lui-même, puis ils vont savoir ouvrir les frontières pour partager avec l'autre, mais ils vont savoir fermer les frontières également.
Bien, c'est ça. Moi, je pense que j'ai appris à créer mon propre bonheur toute seule. J'ai appris à être bien toute seule. Et là, je suis prête à partager ça, mais pas à tout prix.
Mm-hmm.
Tu sais?
Exact, je pense que
pas à tout prix.
Tu n'es pas prête à te perdre, parce que j'ai aimé l'image de deux personnes mortes.
Ouais.
C'est qu'à un moment donné, tu t'oublies là-dedans.
Ça devient des relations de convenance dans ce temps-là, quasiment. C'est comme on est en couple pour être en couple.
Oui, bien, il y a toutes sortes d'équilibres conjugales possibles. Hein? Puis notre société nous programme beaucoup avec les films Disney pour la romance. C'est l'amour romantique. Saviez-vous que c'est un sentiment, ça, l'amour romantique? C'est pas présent dans toutes les cultures du monde.
Mm.
Les émotions sont présentes dans toutes les cultures du monde. Joie, colère, peur, tristesse et dégoût. Alors que les sentiments, ça, c'est des mix culturels développés, puis c'était une importation européenne, ça, quand c'est arrivé au Japon, d'ailleurs. La romance. Je me languis de vous et je vous espère, on se retrouvera ensemble. Donc, si c'est une invention culturelle, ça veut dire aussi que c'est capable de mentir.
Wow, c'est intéressant ça.
J'adore. Ouais. J'adore tout ce que j'entends.
Bien, c'est drôle, puis de plus en plus, on parle de d'exclusivité romantique, exclusivité émotionnelle et oui. exclusivité sexuelle. On est en train, on dirait, de justement, en tout cas, durant cette semaine de Saint-Valentin, je ne sais pas si vous avez vu passer dans les médias traditionnels, Radio-Canada, Novo, toutes sortes de médias en ont parlé. Du polyamour, de libertinage, oui. d'exclusivité. Donc, j'ai l'impression qu'il y a comme une ouverture de ce côté-là. Puis, on en parle de plus en plus. Selon toi, Dr. Simard, est-ce que l'humain est polygame ou monogame?
Bien, je vais citer un de mes collègues qui disait que l'humain est un monogame en série.
Ah, c'est bien ça!
C'est Yvon qui dit ça! Oui. Yvon Dallaire, oui!
Ah,
mais,
Yvon, c'est notre
mais c'est parce que l'être humain est foncièrement insécure. Puis quand il fait face à l'incertitude, lorsqu'il ne peut pas planifier les choses, bien, c'est l'insécurité qui fait en sorte qu'il va vouloir à tout prix chercher des balises là, pour se rassurer. Là. Et en psychologie, il y a un beau terme qui s'appelle les objets transitionnels. Oh. C'est comme la doudou là, qui rassure
ouais.
l'enfant.
Oui.
Bon, bien, aujourd'hui, qui n'a pas d'objet transitionnel sous la main, sous la forme d'un petit téléphone cellulaire,
ouais.
qui peut à tout moment regarder des choses qui vont le rassurer, qui vont capter son attention?
Quand t'es gêné,
oui.
tu veux pas, tu veux éviter un contact social?
C'est si parfait.
Mm. Wow.
Et ça empêche peut-être les gens de développer leur maturité relationnelle, par contre.
Ouais. Puis, comment on peut arriver à se défaire d'une dépendance affective? Disons, quelqu'un là, qui était comme moi, là, qui multipliait d'une relation à l'autre,
ouais,
là,
ouais,
vraiment
ben,
fusionnait
avant...
avec l'autre et s'impliquait vraiment. Là, on cohabitait ensemble rapidement, tout se faisait vite, là.
Bien, avant de défaire quelque chose, ça serait bien de définir c'est quoi qu'on veut construire.
Ouais.
Parce qu'on va travailler les deux plans. Là. Mais probablement que ce qu'on veut développer, c'est une saine gestion du besoin affectif.
Ouais.
Et non pas traiter l'affection ou l'affectif comme étant un manque, une drogue. Il faut que tu me donnes ma dose d'affectif. Si tu ne me la donnes pas, c'est toi qui n'es pas correct. Mais un besoin affectif, c'est tout à fait normal. Donc, on va essayer de construire ça. Comment on fait ça? Bien, c'est par le fait de devenir responsable. Responsable de construire des succès d'autonomie. Mais là, il y a des gens qui sont tellement brisés à l'intérieur d'eux, là, qui souffrent notamment de ce qu'on appelle un trouble de la personnalité dépendante.
Ça, je trouve ça intéressant, ce nouveau terme-là. En plus, les troubles de la personnalité, on en entend de plus en plus parler. J'aimerais ça que vous nous l'expliquiez.
Bien, si on faisait une parenthèse là-dessus, c'est qu'il y a trois grandes catégories de troubles de la personnalité. Là. C'est des perturbations du développement, de la construction de l'esprit, on pourrait dire.
OK.
Puis dans ces trois grands styles-là, il y a un style qu'on pourrait dire étrange. Il y a un autre style qui est expressif, flamboyant. Et une autre catégorie qui s'appelle les craintifs.
OK.
Donc, dans les flamboyants, vous les connaissez sûrement sous la forme de narcissique, histrionique, antisocial. On y reviendra si vous voulez.
Oui.
Mais dans la dépendance, ça appartient à la gang des craintifs. Donc, c'est des gens qui ont une perturbation de leur fonctionnement interne ou comportemental marqué par un grand vide intérieur puis le besoin de s'accrocher à quelqu'un d'autre. Là. L'incapacité de prendre des responsabilités par soi-même, par risque de déplaire ou risque de se tromper. Donc, ils vont comme déléguer aux autres personnes la responsabilité de les sécuriser.
Mm.
Mais c'est comme si ça reste un petit peu comme de l'immaturité, ce qui est normal pour l'enfant,
ouais.
mais qui devient problématique à l'âge adulte. Donc, il faut développer le sentiment de sécurité, la maîtrise de soi. Puis là, il y a plusieurs manières de le faire. Là. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est structurer un PPPP. Plus petit pas possible. C'est des exercices pour construire un sentiment de confiance que je suis capable d'y arriver. Il va falloir trouver le PPP, le plus petit pas possible. Ça peut être très petit, ça. Mais à travers des petits succès, on va réussir à m'amener à construire des plaques de succès qui vont nous permettre de faire « Ah, OK! » Ça, c'est comme ça que ça marche, l'équilibre. Puis là, on va grandir notre confiance en nous-mêmes.
C'est ça.
Ouais. Là, toi, t'as compris ça, la confiance. Hein? T'as gagné confiance.
Je pense que oui, pour vrai. Puis honnêtement, je pensais jamais me rendre là un jour parce que j'ai toujours... Tu sais, ces gens qui veulent plaire à tout prix, il y a un livre hein, qui s'appelle comme ça. Là. En tout cas, je suis tombée là-dessus. J'avais commencé à le lire, ça fait vraiment longtemps, je me rappelle plus.
Il ouais, y a beaucoup de livres sur la psychologie populaire là-dessus.
Puis je me suis rendu compte que je voulais... Souvent, tu sais, plaire à tout le monde, là. Ça me faisait plaisir de faire plaisir. Puis bon, jusqu'à ce que je me rende compte que dans le fond, c'est que je faisais ça, j'avais un manque de confiance en moi, finalement. Puis là, je vous le dis, là, les gens là, qui sont dépendants affectifs, c'est possible de vous en sortir. Je suis devenue vraiment... J'ai tellement confiance en moi, je suis tellement bien toute seule, j'ai besoin même de ma bulle à moi. Tu sais, j'ai besoin d'avoir mon chez-moi, mon copain a son chez-lui, puis ça me permet de, tu sais, de prendre ça plus cool comme début de relation, comme peut-être qu'un jour on va cohabiter, j'ai aucune idée, là. Je sais rien pour acquis jamais, mais là, c'est vraiment... J'ai jamais vécu ça aussi sain, aussi libre. On n'a pas envie de se posséder ni un ni l'autre. J'ai souvent été avec des hommes... pas tous, là, mais souvent, c'était des hommes qui avaient besoin d'un certain contrôle.
Bien, c'est une sorte d'insécurité.
Exact.
Puis deux personnes qui essaient de se remplir l'insécurité l'un l'autre, là, c'est ça la démarche de fusion. Là. C'est comme deux enfants qui se donnent la responsabilité de se rassurer l'un l'autre. Donc, tout va bien s'ils sont en train de jouer dans un parc à jeux. Mais le problème, c'est s'il arrive une catastrophe ou une blessure, parce que là, l'autre enfant n'est pas capable de rassurer le premier enfant. Là, il tombe avec lui dans la crise. Là, ça fait des collisions puis des batailles émotionnelles épouvantables. Hein. Des gens qui se laissent même dans ces moments-là. Puis le lendemain, ils disent « Ouais, non, c'est pas ça que je voulais dire. » Mais on vient de laisser une cicatrice profonde dans la relation.
C'est ça.
L'ennemi de la dépendance affective, c'est l'abandon, c'est le rejet. Quelqu'un qui a peur de l'engagement, quelqu'un qui est plus évitant, ça peut pas fonctionner.
Bien, c'est que les gens qui évitent l'intimité vont souvent simuler un sentiment de confiance en eux-mêmes. Parce qu'ils disent « Non, non, moi, je suis correct, mais tant que tu maintiens l'autre à distance. » Donc, ils vont simuler la confiance en eux-mêmes, puis dès que le couple ou la relation va les forcer à dévoiler leur intimité, bien là, c'est là que leur insécurité va apparaître. Mais on voit souvent une forme de cristallisation, on appelle ça un équilibre asymétrique. C'est qu'il y en a un qui domine, puis il y en a un qui se soumet. Donc, ça arrive parfois dans les relations où il va y avoir, par exemple, une personne qui a des traits narcissiques avec une personne qui a des traits dépendantes. Mm. Puis là, après la rupture, la personne dépendante a dit « Mon ex, il était toxique. Oh. » Puis après la rupture, le gars là, qui était narcissique, lui va dire « Mon ex était toxique. » Donc, deux accusations.
Ça, là, les personnes qui multiplient les relations toxiques et qui s'en plaignent, puis qui vous en parlent, là, à un moment donné, là, dites-leur de se regarder dans le miroir.
C'est souvent une accusation, ça. Hein? C'est rarement une auto-évaluation. « Ah, je suis juste toxique, finalement. » C'est lancer à l'autre personne pour se déverser à l'extérieur de sa responsabilité, encore une fois, sur soi.
Oui.
C'est dur d'être responsable.
Bien, les ex qui parlent en mal de leur ex et les personnes qui se plaignent de toujours ramasser des pervers narcissiques ou des relations toxiques, tournez le miroir vers vous, là. Puis essayez de voir, là, est-ce que peut-être que... Moi, c'est ce que j'ai réalisé.
Ça se pourrait-tu que...
Bien, ça se pourrait-tu que je donne trop de lassitude et que j'accepte trop de choses, tu sais, puis l'autre personne va juste prendre plus, puis en faire plus, puis en faire plus. Je le laisse faire. Je suis la seule et unique responsable de ces actes-là, en quelque sorte. Je le laisse. J'ai pas mis mes limites. J'ai pas dit, hey, ça, j'accepte pas ça. Oui. Hey, ça, c'est de la manipulation. Hey, ça, c'est...
Oui, mais il y a une différence entre la victimisation puis être victime.
C'est ça.
Ouais. C'est qu'une personne qui est victime, elle perd du pouvoir sur sa vie. Là. Alors qu'une personne qui fait de la victimisation, c'est qu'elle se place elle-même dans la posture de victime pour avoir une certaine forme de contrôle ou de prise. Donc, c'est pas du tout la même dynamique qu'une personne qui est victime, qui perd du pouvoir, qu'une personne qui fait de la victimisation.
Les pervers narcissiques, là, on va carrément ailleurs, là, mais parce qu'on va continuer de parler de la dépendance affective avec Alex Cormon, mais... Les pervers narcissiques, c'est souvent des personnes qui vont se victimiser aussi, hein, qui vont placer l'autre dans une situation de façon à pouvoir l'accuser ensuite.
Mais c'est une sorte de triade, ça, tu sais, être le méchant bourreau qui renvoie ensuite à la victimisation, qui renvoie ensuite au rôle de sauveur.
Ah, le triangle de
Capman. Ouais, puis là, les trois rôles sont interchangeables, là, puis on peut changer de chaise rapidement. Là. Mais c'est un jeu de pouvoir, au final.
Il y a des couples qui roulent là-dessus des années.
Oui.
C'est fou.
Oui, mais on peut dépasser ça, par contre. Il y a chacune des composantes du triangle de Cartman pourrait avoir une solution. On sort du rôle dans la victimisation avec de la responsabilisation. Le bourreau, lui, il va sortir de cette affaire-là en utilisant son énergie pour changer les choses. Puis le sauveur, il va comprendre quelle est la différence entre sauver et aider.
Mmh. Okay. Ça a l'air qu'on est tous un de ceux-là.
Bon, on peut être les trois en même temps.
Ah oui?
Oui, oui. C'est des stratégies, c'est pas des définitions formelles. Il n'y a pas une structure dans le cerveau qui dit « Voilà, toi, tu es un sauveur. »
Ouais. Mais le but ne serait pas justement d'être un peu des trois pour être équilibré?
Bien, il faut savoir se promener dans les différents rôles en fonction c'est de l'adaptation. Ça. Mais c'est que ça, ça décrit une triade qu'on pourrait dire négative, là, où, tu sais, dans la souffrance.
Toxique.
Ça. Ouais,
okay. Exact. OK. Hey, je pense qu'il faudrait faire une pause, hein?
Écoute, c'est oui.
Alex va nous attendre
ben oui, il n'y a pas de problème.
Je pense.
On peut poursuivre ça. Les gens commencent à justement nous dire que c'est un sujet qui est super intéressant. Oui. Je sais que plusieurs chapeaux doivent se porter à l'heure actuelle. Vous devez vous reconnaître aussi. N'hésitez pas.
Partagez-nous vos histoires.
Oui, à interagir
des
avec
questions.
Nous. 418-670-9098. Courte pause. On revient par la suite avec notre deuxième invité qui se joint à la conversation.
Yes.
La sexploratrice avec Mel Trudel et Camille.
Radio X.
De retour avec la sexploratrice et la pécheresse Camille.
La pécheresse, aimer, vouloir être aimée, c'est vraiment difficile et je suis en thérapie justement pour ça. C'est tellement vrai ce que vous dites ce soir. Bien, merci d'être là pour commenter et d'être à l'écoute. Des judicieux conseils de nos experts.
Oui.
Ça va sauver des relations, ça va sauver beaucoup d'estime de soi, je pense, ce soir
absolument.
D'en parler.
Parce que la priorité dans la vie, c'est d'être la personne qui nous rendra heureux et ne pas être avec la personne qui nous rendra heureux,
oui,
n'est-ce
oui,
pas?
Oui, oui.
Donc, c'est Dr Simard qu'on entend à l'instant et on va tout de suite rejoindre Alexandre Cormon, qui est un coach relationnel amoureux, qui est reconnu le mondialement, rien de moins. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, bonjour Alexandre.
Bonjour Mélanie, bonjour Camille, bonjour Paul, bonjour tout le monde.
Allô.
Merci beaucoup d'être là en direct de Miami.
Avec grand plaisir. Merci à vous pour l'invitation.
Un grand merci. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, Alexandre, peux-tu nous décrire un petit peu exactement ce que tu fais?
Bien sûr. Donc moi, je me suis lancé en 2007 comme coach en amour. C'est un métier qui était atypique à l'époque, notamment en France, qui est devenu beaucoup plus courant aujourd'hui. Donc j'ai la chance de m'être développé comme le love coach numéro 1 en francophonie et de m'être installé il y a 6 ans désormais aux États-Unis. Donc je dirige plusieurs cabinets de coaching en France, aux États-Unis, au Brésil, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Pour accompagner justement les personnes qui sont en dépendance affective, je sais que c'est le sujet de ce soir, les personnes qui sont célibataires ou qui sont en couple, mais qui traversent des moments un petit peu difficiles. Donc le métier de love coach, c'est d'accompagner les personnes dans leur vie amoureuse. Voilà un petit peu pour moi et mon parcours.
Oui, il y a des vidéos hyper intéressantes, que ce soit sur YouTube, sur vos réseaux sociaux, vraiment là, sur comment surmonter un chagrin d'amour, comment récupérer, retrouver son ex ou tenter de retrouver
de
son ex, de reconquérir son ex. Oh. Mais là, le sujet de ce soir, c'est vraiment comment se défaire d'une dépendance affective. Et Alexandre, est-ce que tu pourrais dire qu'il y a quand même plus qu'un type de dépendance affective ou la principale que toi, tu traites là, présentement ou que, pour lesquelles tu as des conseils à donner, c'est vraiment la dépendance affective amoureuse. Mais on a la dépendance, on en a d'autres, hein?
Bien sûr, il existe plusieurs dépendances affectives. On peut l'avoir déjà dans l'amitié, on peut l'avoir aussi dans le domaine de la famille. C'est vrai que moi, je vais principalement traiter de la dépendance affective dans le couple. Alors, j'ai eu la chance de vous écouter sur la première partie et tout ce que vous avez dit était vraiment hyper intéressant. Pour moi, ce que je vais voir au quotidien par rapport aux personnes que je coach, c'est cette sensation de mettre notre bonheur dans les mains d'une autre personne.
Ouais.
C'est-à-dire que quand on est en dépendance affective, on n'arrive pas effectivement à avoir confiance en soi, on n'arrive pas à avoir de projet de vie dans son quotidien personnel parce qu'on existe à travers l'autre. C'est-à-dire qu'on va s'oublier pour faire plaisir à l'autre. Ça, c'est la dépendance que moi, je vais voir au quotidien sur laquelle je vais m'intéresser. Et ce qui est assez marrant, c'est pas le bon terme, mais ce que moi, j'ai découvert, c'est que cette dépendance, elle existe dans toutes les relations. Par exemple, cet après-midi, j'avais une personne qui me disait « j'étais dépendante à mon activité professionnelle », c'est-à-dire que j'ai tout donné dans mon boulot et au point de m'oublier personnellement et d'oublier mon compagnon également dans la relation.
Est-ce que c'est une intensité qui est typique, comme tu dis, dans toutes les sphères de la vie? Est-ce que ce sont des gens qui, justement, sont des extrémistes? Ça, ils vont se lancer dans des projets, puis ça va être tout à fond, là. Dans le travail, ça s'investit dans le travail. Quand ça tombe en couple, là, ils se concentrent juste sur leur relation. Est-ce qu'il y a un objectif unique dans leur vie, pratiquement? Ça peut-tu marcher de même?
C'est très intéressant, si tu veux, au niveau de ta question, parce que oui, il y a un objectif, et vous l'avez évoqué, c'est la notion d'existence à travers l'autre, c'est-à-dire qu'on existe à travers le regard que l'autre va porter sur nous. Donc, si aujourd'hui, on imagine qu'on donne beaucoup dans notre couple, l'autre va être plus épanoui, donc notre valeur en tant que partenaire augmente à cet instant précis. Okay. Donc, on va se lancer à fond dans tous les domaines. Ça peut être une passion, ça peut être le boulot, ça peut être une amitié. Et on se rend compte qu'on est toujours dans une phase de, finalement, désillusion au bout d'un certain temps parce qu'on a, on offre ou on donne tellement qu'on ne peut pas recevoir autant. Et donc, on est frustré et ça crée des tensions dans n'importe quel domaine, que ce soit même relationnel ou juste avec soi-même, en fait. On peut aussi être très déçu de soi-même quand on est en dépendance affective.
Puis il y a même des gens qui se disent guéris de la dépendance affective, mais qui vont être littéralement accros aux réseaux sociaux, aux applications de rencontres ou aux sorties avec amis. Donc, c'est une autre forme. C'est comme si, finalement, on basculait la dépendance affective amoureuse, mais vers d'autres sphères, finalement. Donc, l'important, c'est vraiment, j'imagine, que vous, les trucs que vous donnez aux gens, c'est d'apprendre justement à être bien, à avoir confiance en soi.
Exactement. La première étape, en fait, tout va être lié à la reconnexion finalement à soi.
Oui.
La reconnexion à soi, c'est augmenter son niveau de confiance, c'est-à-dire reconnaître ses qualités déjà en tant que partenaire, reconnaître ses envies à la différence des besoins et surtout s'affirmer aujourd'hui en tant que partenaire avec un rôle à jouer dans la relation qui ne dépend pas de l'autre. Donc, la première étape, c'est la reconnexion à soi. Et la deuxième étape, alors moi, j'ai une philosophie un petit peu, on va dire, spéciale. C'est vraiment une philosophie de passage à l'action. Je me suis aperçu que quand on est dépendant affectif, on va imaginer tout un tas de choses négatives. On va imaginer que notre partenaire nous trompe, on va imaginer qu'on n'est pas assez bien, on va imaginer que le couple ne va pas bien, et on va regarder la moindre petite bête, c'est-à-dire si la personne ne m'a pas envoyé de message pendant quelques heures, je vais tout de suite m'imaginer tout un tas de scénarios négatifs.
Oh,
eh bien, je me suis aperçu en coaching que quand on transformait ces peurs en action, c'est-à-dire que je vais m'impliquer dans mon couple en essayant de faire plaisir à mon chum, pour reprendre un mot québécois, faire plaisir à sa blonde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'investir positivement dans la relation et à cet instant précis, on transforme le négatif en positif. Un exemple tout bête, ce serait de se demander comment je peux surprendre mon ou ma partenaire pour ce week-end, comment est-ce que je peux créer une nouvelle sortie, une nouvelle activité qu'on n'a pas encore vécue, au lieu de commencer à paniquer et de regarder chaque minute mon téléphone pour voir si il ou elle m'a écrit. Donc, essayons de transformer, en fait, ma philosophie va être d'essayer de transformer toute la partie négative en positif et en action.
Oh, c'est intéressant, ça. C'est important, par contre, de ne pas faire des trucs dans l'attente de remerciement ou de gratitude de la part de l'autre partenaire. Hein? J'imagine que ça peut être quelque chose qui peut être problématique si on fait quelque chose vraiment dans l'espoir de recevoir une forme de reconnaissance ou de...
Ça pourrait être de la manipulation.
Oui, ouais, mm-hmm. En attente d'eux.
En plus, on fait passer un test à l'autre personne qu'on ne lui a pas expliqué les règles. Donc, il est probable qu'il échoue le test.
Effectivement.
Ça veut dire que ça prend un peu aussi de lâcher prise, en quelque sorte. Quand on parle, Dr Simard, de déresponsabilisation, de responsabilisation, au contraire, c'est pas un peu ça, c'est-à-dire de lâcher prise et de se recentrer sur soi-même?
On pourrait dire ça, c'est partiellement ça, parce qu'il y a des gens qui ne font que se centrer sur eux-mêmes.
Ouais, non, ça,
on appelle ça les égocentriques.
Ouais, c'est l'inverse.
Mais moi, j'aime bien amener la notion de égoïsme, parce que l'égoïsme alterne à l'altruisme. Je pense que la définition qu'Alex donnait là, sur la différence entre le besoin et l'envie, ça peut aussi se représenter à travers la différence de égocentrique versus égoïsme. Égocentrique, mm-hmm. C'est je suis le centre du monde. Mes envies sont des exigences. Alors que égoïsme, c'est seulement définir ce qui m'appartient à l'intérieur de moi. Puis là, quand j'ai fini de m'occuper de mes besoins, parce que j'en ai pas 10 millions des besoins, là. Je mange, je dors, je m'abrille, je suis en sécurité. Bon, OK, là, j'ouvre les portes naturellement, puis là, je peux m'occuper des extras. Mais ça, il faudrait d'abord prioriser les besoins pour réussir à le faire.
OK.
Il y a des gens qui sont tellement dépendants, qui se mettent dans des situations et des... Ils deviennent vraiment dans un état pitoyable et dans le but vraiment de chercher de la gratification. Puis ils marchent même sur leur dignité là, pour arriver à avoir comme la reconnaissance de l'autre. Ou ils sont tellement dépendants et tellement peur d'être seuls. C'en est triste. Est-ce que c'est des cas extrêmes? Est-ce que vous en avez déjà vu? Est-ce que tu en as déjà vu, Alex?
Alors oui, malheureusement, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que moi, depuis que je fais ce métier, je me suis aperçu que la dépendance affective, c'est la cause numéro une des séparations et des divorces.
Oh.
C'est-à-dire que c'est complètement dingue d'arriver à un niveau de se dire « j'aime tellement que j'arrive même à créer une rupture parce que je vais étouffer l'autre, parce que je vais l'aimer à ma manière, sans forcément attendre les besoins, sans forcément répondre également à ses envies. » Donc, ce que tu viens de transmettre, si tu veux, c'est exactement ce qu'on voit au quotidien. C'est un amour qui va être parfois centré sur soi, même très souvent uniquement centré sur soi. On essaie de se rassurer. Comme tu le dis, on peut même arriver jusqu'à un niveau d'être entre guillemets minable, c'est-à-dire que je suis vraiment dans une dépendance où ma valeur, mon identité, mon bonheur ne passe que par l'autre. Et pour rebondir sur ce que Paul vient de dire, cette notion d'égocentrisme ou d'égoïsme, c'est essentiel. Parce que quand on va dire « Ok, faites des actions dont vous avez envie. Oui, mais j'ai peur d'être mal perçu, j'ai peur qu'on pense que je suis égoïste. » Alors que ça pourrait être justement l'expression de notre personnalité dans le couple et un combat, un moyen de combattre la dépendance. C'est là où on se dit, c'est quand même super contre-intuitif. C'est complètement dingue.
Il faut savoir avoir peur. S'occuper de sa peur. Plutôt que de ne pas avoir peur, puis essayer de tous les moyens possibles pour ne pas avoir peur. Ça, on appelle ça l'évitement. Alors, plutôt qu'éviter, on se confronte aux faits réels. On entre dans l'action. On fait des mini-tests. C'est à travers l'action qu'on va construire notre sentiment de confiance en nous-mêmes. C'est pas à travers une lecture théorique ou à travers une réflexion. C'est l'action.
Oui. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a beaucoup de couples qui restent ensemble parce que la peur de l'inconnu fait peur. Donc, ils préfèrent rester en couple malgré la relation toxique, malgré la relation qui n'est pas satisfaisante parce que c'est une zone inconfortable, mais qui est connue. Donc, certaines personnes préfèrent rester dans cette relation-là des années plutôt que d'aller vers l'inconnu et risquer d'être finalement heureux. Mais comme c'est de l'inconnu, c'est hyper anxiogène et c'est hyper stressant.
Il y a des recherches scientifiques là-dessus qui démontrent que ça prend au moins un avantage deux fois positif supérieur à la perte. Parce que lorsqu'on subit une perte, là, la perte de mon statut conjugal, la perte de mes habitudes, ça coûte tellement cher en énergie et en insécurité perdre quelque chose que beaucoup de gens qui vont avoir besoin d'une méga opportunité flamboyante pour faire la transition. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont sauter d'une relation fade à une relation passionnelle. Puis là, c'est comme allumer une chandelle par quatre morceaux à la fois, quatre sections. Ça fait un gros flash de lumière, mais elle ne dure pas longtemps, la chandelle. Puis là, ils ont froid, donc ils vont rechercher une autre chandelle à brûler par les quatre bouts en même temps.
Aïe, aïe, aïe. Il y a aussi l'effet euphorisant du début de relation
ouais,
qui embarque.
C'est ça, le gros flash. Là.
Ouais.
Ça t'éblouit, mais après ça, tu fais face à une flamme qui s'éteint tranquillement.
Les amoureux de l'intensité, il y en a beaucoup.
Alex, est-ce que toi, tu vois des couples aussi parfois ou c'est vraiment que des gens seuls qui sont en couple ou des célibataires finalement ou tu donnes des formations aussi aux couples?
Alors, je vais également donner des formations aux couples. Je vais accompagner des couples, effectivement. C'est rare d'avoir les deux partenaires qui ont les mêmes envies. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours un des deux partenaires qui a vraiment envie de faire les efforts, qui a vraiment envie de faire, on pourrait appeler ça une thérapie de couple, qui a vraiment envie de s'investir, et l'autre qui subit, qui est là un peu pour faire bonne figure. Donc, c'est pour ça que j'en fais un petit peu moins. Mais ça m'arrive d'avoir des couples qui se disent « Mais non, il faut qu'on s'en sorte à deux ». Parce que soit, alors là, c'est le côté aussi un petit peu explosif, les deux sont dépendants affectifs. Alors là, ça amène quand même pas mal de tensions. On est vraiment l'un sur l'autre et tout est sujet à conflit. Mmh. Ou alors, la situation inverse, on a un début de relation qui est hyper passionnel avec une personne dépendante affective. L'autre personne que vous avez citée, c'est un peu le côté évitant. Et ça fait en fait un manque de communication. Ça amène beaucoup de conflits qu'on peut dénouer par une compréhension de l'autre. Donc, quand on est au courant finalement de l'impact de la dépendance affective et je dirais plutôt des tracas que ça peut apporter dans une relation, à deux, on peut s'en sortir, on peut avancer. Mais on ne peut pas compter sur notre partenaire parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure des années de coaching, des recherches, des études, que quand on est en dépendance affective, on donne beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de valeur à l'autre qui peut en abuser. Même si c'est une bonne personne, on parlait tout à l'heure de la personnalité toxique, enfin vous en parliez, même si c'est une bonne personne, il ou elle peut devenir toxique parce qu'on lui a donné les pleins pouvoirs. Et ça, c'est prouvé. Donc, il faut y faire très attention. Et c'est pour ça que j'accompagne des couples qui sont en conscience, mais ce n'est pas le cas de tout le monde.
Oh mon Dieu, c'est tellement confrontant ce soir, là, je vous le dis, là, à livre ouvert, c'est coupable, 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 coupable. Je fais juste entendre ça dans ma tête, veux, veux pas. Ce que Alexandre a mentionné tantôt, l'histoire de trop aimer, trop donner, être trop pour quelqu'un, à la faire déguerpir parce que la personne a peur. Oui. C'est un peu ce qui m'est arrivé, là, puis je m'en cache pas, c'est vraiment ça. La question est par texto, je l'ai aussi. J'ai vécu un décès d'un parent en étant jeune. Une auditrice également. évidemment, de ce que je comprends, je crois que c'est une fille. Pourrais-tu demander le pourquoi on devient comme ça? Est-ce que le décès de mes parents en est pour quelque chose? Me semble que même jeune, j'étais heureuse, pleine de vie, confiante, et j'ai perdu ça en vieillissant. Est-ce que je suis brisée, Dr Simard? Est-ce qu'on est brisé d'avoir vécu un deuil à l'enfance, un abandon?
Bien, dès les premières années de la vie, on va forger une espèce d'autoroute là, sur laquelle va se passer notre gestion des émotions. Puis c'est depuis cette autoroute-là, appris très tôt dans la vie, que vont se développer les petits chemins de campagne. Mais ça ira toujours plus vite par l'autoroute. Donc, dès qu'on subit un choc, ou qu'on est stressé, ou qu'on est fatigué, ou malade, bien, on a moins de ressources pour se promener dans les petits chemins de campagne. Puis par défaut, bien, nos réflexes utilisent la vieille autoroute. Donc, c'est sûr que si on a subi des blessures ou des traumas, il est possible que des situations similaires ou simplement la fatigue, parfois, là, nous refasse tomber, nous déclenche dans nos vieux apprentissages. Parce que ces premiers apprentissages-là, là, gardez à l'esprit que ça vous a sauvé la vie.
Ouais.
C'est tellement fort là, que les premiers apprentissages, votre système nerveux, il comprend que c'est comme ça qu'on assure la survie. Le corps humain, c'est pas fait pour être heureux, c'est fait pour survivre. Puis on a le potentiel d'être heureux.
Ouais.
Mais pour déclencher le potentiel, il va falloir prendre soin de la base, là, sécuriser beaucoup le corps, les réflexes, retrouver nos ressources. Puis ça, ça peut demander beaucoup de travail, une hygiène de vie.
Effectivement. Alexandre, je sais que dans tes formations, tu parles aussi parfois de le chagrin d'amour. J'ai déjà lu qu'un chagrin d'amour, ça pouvait être aussi intense qu'un choc post-traumatique. Ça peut être aussi traumatisant. Il y a même des gens là, qui sont traités de la même façon qu'un choc post-traumatique. Est-ce que ça, c'est vraiment des formations que tu offres aussi, hein, des gens qui veulent survivre à un chagrin d'amour ou surmonter un chagrin d'amour, finalement?
Oui, parce que pour revenir aussi sur la question précédente, en fait,
oui.
Ce qui m'a amené à devenir coach en amour, c'est le décès de mon père.
Wow.
Est-ce que tu étais jeune aussi, Alexandre?
Oui. Alors, j'avais 19 ans.
Oh,
19
okay.
ans, donc j'étais jeune sans être très jeune, mais ça m'a fait un tel choc parce que j'étais quelqu'un d'hyper jovial, hyper positif, hyper heureux. Et c'est vrai que quand on perd un parent, c'est un choc émotionnel qui va complètement transformer notre quotidien. Et pour moi, ça a été l'effet inverse, c'est-à-dire que j'étais un grand dépendant affectif. Et le fait de perdre mon père, je me suis dit, mais j'ai perdu ce que j'avais de plus précieux. Aujourd'hui, je vais commencer par me construire. Et c'est ce qui m'a amené à faire ce métier. C'est ce qui m'a amené finalement à faire ce que j'appelle moi cette mission de vie, ce qui a donné du sens à mon quotidien. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, je me rends compte de ma capacité à me reconstruire, ma capacité à croire en moi et ma capacité à me dire, bah, je vais mener ma vie et l'amour sera la petite cerise sur le gâteau. Et en travaillant sur mon deuil, je me suis aperçu que la douleur d'une rupture amoureuse est la même douleur ou peut être considérée identique à celle d'un deuil.
Ouais.
Donc, effectivement, pour te répondre, Mélanie, je pense qu'aujourd'hui, le choc post-traumatique, pardon, c'est un choc que je vois chez les personnes que je coach. Je les accompagne, non pas sur le choc, parce que là, il faudrait un professionnel, tel un psychologue,
ouais,
par exemple, mais moi, je vais les accompagner sur la définition de leurs envies. Comment est-ce qu'on peut passer à l'action? Comment est-ce qu'on peut utiliser ce choc pour en faire une force? Donc, pour l'auditrice qui disait justement, voilà, j'ai perdu un parent, je voulais te dire que je suis vraiment triste pour toi. Et en même temps, je sais que tu vas pouvoir te construire, tu vas pouvoir en faire une force parce que tu as traversé l'étape la plus difficile pour un être humain. Et il faut désormais prendre les petits chemins de campagne, entre guillemets, comme tu le disais, Paul, sur la notion de découvrir l'étude ou l'éducation alternative, l'hypnose, le MDR, l'EFT, toutes ces disciplines qui nous permettent de prendre en conscience la gestion de nos émotions et la définition de notre quotidien. Mais un choc post-traumatique, pour moi, il peut être vu de deux façons. Déjà, il y a cette notion de, effectivement, il faut le surmonter, mais surtout, ça peut être une forme de, entre guillemets, je vais utiliser un mot qui est fort, mais bénédiction, parce qu'il nous donne cette force qu'on n'a peut-être pas au quotidien ou ce coup de pied aux fesses qu'on n'a pas au quotidien aussi.
Oui, mais il y a beaucoup de personnes qui vont réussir à transformer leur souffrance en opportunité. On appelle ça la résilience, d'ailleurs.
Ouais. Oui.
Mais je pense que ce qui est bien, c'est qu'il faut vraiment faire attention à distinguer l'assistance ou le coaching qu'on offre puis les traitements psychologiques, oui, de troubles. Puis je pense, oui, que tu sais, Alex fait bien la distinction entre les deux, là.
Oui, vous l'avez bien expliqué. Donc, vous pourriez vous compléter auprès, oui, de quelqu'un, oui, qui aurait les besoins de ce côté-là.
Moi, finalement, j'ai été très touché par l'histoire d'Alex, d'ailleurs. C'est dans ton premier chapitre de ton livre, je crois.
OK.
Oui. Effectivement.
Je l'ai lu au mois de novembre dernier.
Je te remercie, Paul. Ça me touche.
Donc, Alexandre, pour te rejoindre sur les différents réseaux, peux-tu nous dire où se rendre, finalement?
Bien
bientôt,
sûr.
évidemment.
Alors, il y a la chaîne YouTube avec presque 3000 vidéos, donc ça commence à faire.
Combien
C'est
d'abonnés? C'est des millions d'abonnés, je pense.
C'est 1,5 million d'abonnés. Ça, c'est pour la partie francophone.
Cool.
Donc voilà, Alexandre Cormon officiel. Sur Facebook aussi, on a passé la barre du million avec Alexandre Cormon officiel. Je dirais que le moyen le plus simple pour me joindre, c'est Instagram, coach Alex Cormon. Voilà, je continue de lire les messages, je continue de répondre. J'utilise Instagram comme un laboratoire pour voir les sujets intéressants. Donc voilà un petit peu pour les personnes qui veulent continuer à discuter sur le sujet.
Bien, merci beaucoup, Alexandre. Ça a été un plaisir que tu nous accordes de ton temps précieux ce soir. Vraiment, c'est très, très apprécié. Puis je pense qu'on n'aura pas le choix de faire un autre épisode sur le sujet et sur le chagrin d'amour parce que c'est quelque chose, je pense, qui touche énormément les gens.
C'est sûr qu'on va reprendre ça. On va te recontacter. On va aller suivre également tes capsules sur ta page. C'était super intéressant. Merci à toi.
Un gros merci.
Merci à vous pour l'invitation.
Merci.
Bon week-end. Bye-bye. Il est parti. Voulais-tu faire une dernière pause, ma chère Merle?
Je pense qu'on va y aller avec une dernière pause.
Parfait.
Puis on va revenir là, avec des témoignages. Il y a des gens là, qui nous écrivent aussi. Donc, à tout de suite.
La sexploratrice avec Mel Trudel et Camille. Radio X.
Ça va extrêmement vite, t'as raison.
Ça va vite, mais Colin, que c'est le fun. Puis les gens, vous êtes tellement généreux, vous êtes tellement gentils. Mon Dieu, merci beaucoup pour vos beaux commentaires. On adore vous lire. Donc là, je veux qu'on parle des styles d'attachement. Parce que je pense que ça peut être intéressant dans un couple, ou même en tant que célibataire, de connaître son style d'attachement. Parce que ça peut en dire beaucoup sur le comportement de l'autre ou sur nous-mêmes, finalement.
Veux-tu qu'on mette ça en lien avec les styles de comportement sexuel également ou on reste au niveau de l'insécurité?
Mon Dieu, ça ouvre tellement mes antennes, mais on n'aura pas assez de temps.
On est obligé d'en faire ça parce que là, il reste pas beaucoup de temps.
Okay.
Mais style d'attachement. On va nommer les styles d'attachement et on te reçoit, Dr Simard, en mars pour parler des styles sexuels. Ça m'intéresse, ça.
D'accord, ça me fera plaisir.
Ça vous intéresse
de comportement sexuel. Voilà, j'ai un rendez-vous dans mon agenda iPhone.
Ben, en fait, c'est que il y a des gens dépendants affectifs qui vont donner beaucoup de sexualité pour avoir l'attention de l'autre et qui, une fois en couple, vont...
Ils vont arrêter parce qu'ils n'aiment pas vraiment le sexe. Ce qu'ils aimaient, c'est acheter l'amour ou la proximité.
Voilà. Sujet à aborder lors de notre prochaine édition.
D'accord.
Ça va trop vite.
Donc, les styles d'attachement, rapidement...
Ben, c'est une gestion de la sécurité. Il y en a 4 grands styles.
Oui.
Puis on va l'évaluer brièvement avec 2 évaluations. Une évaluation intérieure et une évaluation extérieure. Donc, si moi, je me trouve correct là et que je trouve les autres corrects, c'est ça ce qu'on appelle le style d'attachement sécure.
Oui.
Ça, c'est les gens les plus attirants. Un autre style d'attachement, c'est ceux qui se trouvent corrects eux-mêmes, mais qui trouvent les autres pas corrects, qui se méfient des autres. Là. On appelle ça l'évitant de l'intimité.
Okay.
Il n'entre pas vraiment en intimité, là. Il y aurait une tendance à qu'il y ait plus d'hommes dans ce style d'attachement-là.
Mm-hmm.
Là, l'inverse, c'est quelqu'un qui se trouve pas correct, mais qui trouve les autres corrects. Ça, c'est ce qu'on appelle un style d'attachement ambivalent. Et il y aurait un petit peu plus de femmes dans cette catégorie-là de style d'attachement. Et là, si on met des deux côtés de la frontière, un pas OK, donc moi, je me trouve pas correct, puis je trouve que les autres non plus sont pas corrects, ça envoie un style d'attachement qu'on appelle désorganisé. Ça fait mal. Mais la personne, elle peut être fonctionnelle dans son quotidien. C'est quand elle va vivre des expériences d'attachement et de liens relationnels intimes que ça va faire boum!
Mm-hmm.
Ça va exploser. Une grande désorganisation.
Est-ce qu'on rentre les dépendants affectifs là-dedans?
C'est parce qu'on pourrait entrer des traits de dépendance de plusieurs formes. Là.
OK.
Ça pourrait rentrer dans toutes les sortes d'insécurités, disons.
Oui, d'accord.
Il y a des manifestations différentes.
Mais comme un style d'attachement sécure avec un style d'attachement anxieux, ça peut être difficile, là.
Mais le style d'attachement sécure, c'est le plus attirant de tous les styles.
Le plus attirant.
Parce qu'ils sont posés, sont capables d'offrir de l'écoute puis de la présence. Donc, c'est tellement apaisant pour une personne qui est ambivalente puis qui se trouve pas correct là, d'être avec un partenaire qui est tellement correct. Ça peut être une raison de rupture également parce que mon partenaire est tellement correct puis moi, je suis tellement pas correct que dans le fond, je le mérite pas. Puis il y a des gens qui scrapent leur relation, ils mettent fin à leur rien. Pas parce qu'ils aimaient plus le partenaire, mais parce qu'ils se sentent tellement inférieurs comparé à leur partenaire qu'ils se pognent un autre.
Par autodestruction.
Oui, voilà. Puis parce que ça, c'est souvent connu, l'autodestruction. Puis le connu rassure, même s'il répond pas aux besoins. Donc, c'est le deuxième facteur d'attirance, ça. C'est la familiarité. Ça me dit quelque chose. Ça, c'est super attirant. C'est pour ça les patterns de répétition, là. Il retourne avec
un pattern amoureux. Ça aussi, tabarouette, faut faire un sujet, une émission là-dessus. Il nous reste que quelques secondes. Oui, on va devoir quitter bientôt. Docteur Simard, on vous retrouve où? On se retrouve sur les réseaux.
Vous tapez Dr. Paul Simard, psychologue. Je suis sur toutes les plateformes, Facebook, TikTok, YouTube. Je suis partout.
Avec Ruby aussi. C'est aux semaines ou aux deux semaines, la
toutes
présent?
Les semaines, mardi. D'accord. 17h30, 45.
Oui. Exact.
Parfait.
Donc, merci beaucoup d'avoir été là, Dr. Simard. Merci à tous les auditeurs. Vraiment, vous avez été super gentils ce soir, comme toujours, finalement. Puis Camille, merci. Sans toi, rien de tout ça ne serait possible.
Ce n'est que partie remise. On a ça à l'agenda pour Dr. Paul Simard pour une prochaine visite.